Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie. Vous écoutez La Reine, c'est l'émission d'information locale de Canal B. Et au menu aujourd'hui, une spéciale bilan de mi-mandat pour la majorité municipale rennaise avec une info du jour, un nouvel étiquetage ici, c'est local, sur le marché des Lys, interview long format avec Nathalie Appéré. Il y aura de la musique, une nouveauté, un reportage dans une future ferme florale sur un terrain de la ville et puis deux recommandations, dont une signée Léonard, volontaire en service civique. Bienvenue dans La Reine. Alors chaque jour, on commence l'émission avec une info que je retiens pour vous. Aujourd'hui, on annonce l'arrivée d'un nouvel étiquetage sur le marché des Lys à partir du samedi 11 novembre. Ici, c'est local, c'est son nom. C'est un dispositif lancé il y a bientôt 10 ans et coordonné depuis 2019 par l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Alors la ville de Rennes s'en saisit de ce dispositif avec l'idée de valoriser les produits locaux sur les étals. 4 couleurs différentes pour les produits porteurs d'une de ces étiquettes, vert, bleu, orange et violet. Et l'objectif, c'est savoir avant d'acheter si le produit est bio et ou local, vendu directement par le producteur ou bien en circuit court. Jusqu'au 31 décembre 2024, ce dispositif il est en expérimentation sur le marché des Lys et une quinzaine de commerçants sont déjà impliqués, des maraîchers, des ostréiculteurs ou encore des éleveurs. Allez, après cette info du jour, c'est l'heure d'une interview long format, asseyez-vous. Nathalie Appéré, bonjour.
Bonjour.
Alors le 3 juillet 2020, après des élections municipales qui ont été un petit peu particulières dans le contexte de crise sanitaire, vous avez été réélue maire de Rennes pour un deuxième mandat. On le redit, vous êtes membre du Parti Socialiste et puis également dans le même temps élue pour la première fois présidente de Rennes Métropole début juillet 2020. Un mandat de maire, ça dure 6 ans, on se retrouve donc à la moitié de la période. Un petit peu plus même. Et à cette occasion, il y a 6 réunions publiques qui sont organisées dans les quartiers de Rennes. On échange là le mercredi 8 novembre avec encore 4 rendez-vous à venir, les 8, 15, 21 et 22 novembre. Vous serez respectivement dans les quartiers Maurepas, Courrouze, Blône et Villejean. Beaucoup d'élus, dont vous, défendez un projet qui est participatif. Et paradoxalement, ce sont souvent un peu les mêmes habitants qui participent à ces réunions, mais aussi à tout ce qui est consultatif à la ville de Rennes. Est-ce que c'est un constat que vous partagez? Est-ce que tout reste encore à faire?
D'une manière générale, les questions de démocratie locale sont effectivement au cœur de notre mandat. On en a fait un peu notre ADN en cherchant à multiplier les occasions de participation des Rennaises et des Rennais à la vie publique, en cherchant à recueillir la vie, à rencontrer, à faire en sorte que chacune et chacun puisse participer à la vie de la ville. Alors ça passe par des canaux multiples, depuis les conseils de quartier jusqu'au budget participatif, en passant par les ateliers citoyens ou les comités consultatifs. Je crois qu'il y a des expériences qui portent leurs fruits, d'autres pour lesquelles, effectivement, c'est plus compliqué. Et d'une manière générale, on sait que nos démocraties sont fragiles. Elles le sont dans toutes les grandes démocraties occidentales. Il n'y a pas de raison que, en ce qui nous concerne, on ne ressente pas non plus ce qu'est l'éloignement du citoyen par rapport à la chose publique. Mais raison de plus pour être extrêmement volontariste, pour tenter des expériences de participation. C'est ce que nous avons voulu faire. Alors, ces réunions publiques, alors d'abord, elles n'ont pour la plupart pas encore eu lieu. Donc, difficile de dire qu'y participent, par définition, celles et ceux qui participent tout le temps. Mais elles sont l'occasion, en tout cas pour nous, et c'est important de rendre des comptes. On a passé un contrat, il y a un peu plus de 3 ans maintenant, avec la population, à l'occasion des élections municipales. Et ces réunions, elles sont destinées à dire ce qu'on a fait, peut-être ce qu'on n'a pas fait, ce qui a fonctionné, les difficultés aussi qu'on a pu rencontrer. Donc c'est des occasions d'échange comme on affectionne d'en avoir d'autres par ailleurs.
Avec vous, j'ai envie de dresser un premier bilan, donc à mi-mandat, à la fois des réalisations, des chantiers qui sont en cours et à venir, et puis parfois peut-être de certains changements de cap, en parcourant à la fois des dossiers comme celui de l'urbanisme, des transports, de la sécurité, de la solidarité aussi. Et tout ça, évidemment, sous une contrainte financière qui est très marquée. C'est peut-être la particularité de cette première partie de mandat. Un mot là-dessus, le budget qui a été adopté au mois de mars, il a été assez compliqué à construire, mais à finaliser dans un contexte qu'on connaît d'inflation. Est-ce que ça veut dire qu'on peut être amené, là, à mi-mandat, à diminuer la voilure sur certains projets, voire à renoncer à certaines choses? Ça peut être une possibilité.
D'une manière générale, beaucoup de choses se sont passées en 3 ans et on a eu à faire face, c'est vrai, à une démultiplication de crises de forte intensité. Il m'arrive de dire qu'on a tenu le cap et que pour autant rien ne s'est passé exactement comme prévu, puisque comme vous l'avez souligné dans votre question, lorsque l'on construit le projet municipal, nous n'avions pas anticipé ce qu'allait être la crise sanitaire et la manière dont elle allait bouleverser à la fois le quotidien de chacune et de chacun, mais aussi la vie collective, avec une mobilisation très forte, nécessaire de la collectivité pour être aux côtés des populations pendant cette crise sanitaire. On a un peu oublié, mais nous avons été, les uns et les autres, très mobilisés, focalisés sur la distribution des masques, l'organisation des centres de vaccination, la nécessité de pouvoir accompagner les personnes isolées sur une crise sanitaire qui a duré, avec aussi des dépenses que, effectivement, nous n'avions pas imaginées, y compris jusqu'au soutien aux commerçants, aux entreprises qui ont été fragilisées par cette crise. Et puis, au titre des éléments qui sont venus modifier le contexte de notre action publique, c'est évidemment les conséquences économiques de la guerre en Ukraine, avec ce que vous avez cité, notamment en matière d'inflation, de renchérissement. Enfin, chacun voit bien ça dans sa vie quotidienne et dans le budget de sa famille ou de son budget personnel. La collectivité a aussi été largement impactée à travers, par exemple, le volet crise énergétique, où presque du jour au lendemain, la facture d'électricité de la ville, la métropole, se trouve multipliée par 5. Et je peux vous dire que les 20 millions de différences, c'est pas une paille, c'est pas l'épaisseur du trait, c'est vraiment quelque chose de très impactant sur le budget, qui nous a conduit à faire des plans de sobriété énergétique, mais aussi effectivement à devoir intégrer des contraintes financières très, très fortes, une inflation aussi qui s'est vérifiée sur les projets d'investissement, où là encore, les coûts des matériaux coûtent plus cher, les coûts des travaux coûtent plus cher, mais sur les services, les coûts des denrées alimentaires, quand on fournit chaque jour 14 000 repas dans les cantines, les prix des denrées alimentaires ont aussi considérablement augmenté. J'y ajouterai sur le plan économique la hausse des taux d'intérêt, ce qui fait que la contrainte financière est vraiment un élément très marquant. Je commence à avoir une certaine expérience de la gestion publique et il est évident que sur les 3 dernières années, cet élément de raréfaction de nos ressources financières nous oblige en permanence à être agile, à nous adapter, à arbitrer, ce d'autant qu'on a fait le choix de ne pas augmenter la fiscalité. Alors c'est un choix ancien parce que les impôts à Rennes, en tout cas sur la part communale ou métropolitaine, n'ont pas augmenté depuis 2009, 2010, dernières augmentations de la fiscalité qui en gros n'a pas bougé depuis 15 ans. Et c'est un engagement qu'on avait pris et on souhaite tenir cet engagement, quand bien même c'est plus difficile, beaucoup plus difficile, de réaliser l'ensemble des engagements que nous avions pris dans ce contexte que l'on a décrit. On peut se le permettre parce que on a une santé financière, une gestion financière qui est restée saine et on assume pour autant que ce qu'on appelle certains ratios financiers seront, oui, je le dis, plus dégradés en fin de période qu'en début de période. Mais c'est aussi le moment où il nous faut continuer à investir, et notamment parce que l'un des grands enjeux de ce mandat, c'est d'être au rendez-vous de la lutte contre le réchauffement climatique, de la transition écologique. Ça nécessite d'investir. Et puis, c'est le moment aussi où on a besoin d'un certain nombre de services en soutien aux Rennaises et aux Rennais qui attendent ces services. Donc, c'est un exercice de chaque jour, vraiment, que de pouvoir ajuster avec un niveau de ressources beaucoup plus faible.
Et alors, juste pour donner un exemple, comme l'une des priorités, c'est notamment la rénovation énergétique, est-ce que d'autres projets annoncés, je pense à celui de la transformation de l'ex-prison Jacques Cartier en lieu culturel et citoyen, sur lequel on a encore peu d'éléments, vont être repoussés?
D'une manière générale, lorsque je dis qu'il nous a fallu nous adapter en tenant le cap, c'est qu'on a un niveau de réalisation à mi-mandat qui est extrêmement important par rapport aux engagements qu'on avait pris. Et sur le plan culturel, on a livré des équipements. Je pourrais citer le conservatoire du Blône, je pourrais citer le nouvel antipode sur le quartier Courrouze-Clenay. Je n'évoque pas le champ éducatif, mais là encore, le champ de la rénovation urbaine. Des mobilités, des transformations de l'espace public. Donc nous sommes vraiment en situation de tenir ces engagements. Et y compris sur Jacques Cartier, ce que nous avions dit, c'est d'abord la volonté d'en faire l'acquisition. Ce qui a été fait, c'était l'ancienne prison était propriété d'État. Elle est désormais elle est propriété de la métropole et on a lancé des démarches à la fois d'études et de concertation pour travailler au devenir de ce projet en ayant toujours dit qu'on allait s'inspirer un peu de la méthode Pasteur qui est celle de l'urbanisme transitoire, c'est-à-dire qu'on petit à petit, à travers des initiatives culturelles, des portes ouvertes, des concertations, des collectifs, on vient s'approprier les lieux. Ça veut dire que ça ne devient pas du jour au lendemain un équipement totalement rénové, totalement ouvert, avec des fonctions définies. C'est de toute façon un lieu dont on avait imaginé qu'il serait réapproprié et transformé petit à petit.
Vous avez cité plusieurs aboutissements, donc plutôt sur des équipements culturels. Je vais continuer à citer d'autres projets qui ont été finalisés, ou en tout cas des promesses tenues. Dans l'ordre, il y a eu les tarifs de transport revus à la baisse pour les jeunes en 2020. Évidemment, la mise en service de la ligne B de métro en 2022. Le recrutement de 40 nouveaux policiers municipaux dans une brigade anti-incivilité, ça c'est tout récent, c'était au mois de septembre. Et puis il y a l'ouverture imminente d'une maison des femmes sur le site du CHU. Est-ce qu'il y a un de ces projets ou d'ailleurs un autre qui vous semble très important pour les Rennais et qui peut-être traversera l'histoire. Je ne sais pas si on le pense comme ça quand on est maire de Rennes.
Ben, quand on est maire, on s'intéresse à la fois à ce qui change le quotidien, en même temps qu'à ce qui transforme aussi durablement la ville. Il est évident que les projets en matière de mobilité sont assez emblématiques de ce que sont nos ambitions pour ce territoire, à la fois en termes de transition écologique et de justice sociale. Vous avez cité les deux. La deuxième ligne de métro, elle a transformé la ville par la manière dont ça a permis, y compris le réaménagement d'un certain nombre de places, que ce soit en centre-ville ou dans les quartiers. Mais elle a aussi révolutionné la manière de se déplacer en quelques minutes d'un point à l'autre. Et c'est un chantier d'1,3 milliard. 15 stations, c'est forcément un... Je ne sais pas si ça marquera l'histoire, mais en tout cas, c'est un moment fort. Nous avons pour ambition de lutter contre le réchauffement climatique. Les déplacements, c'est 40% des gaz à effet de serre sur un territoire comme le nôtre. Et l'enjeu, c'est de donner les moyens aux habitants de se déplacer autrement qu'en voiture individuelle. Il y a toujours des trajets qui vont continuer à se faire en voiture, mais à chaque fois qu'on peut donner une alternative, ça offre la possibilité non seulement de se déplacer de manière sécure et rapide, mais en plus de diminuer notre impact carbone. Et avec la deuxième ligne de métro, c'est vraiment tout le réseau de transport en commun qui a été boosté, avec une fréquentation commerciale du métro qui est au rendez-vous. Hein. On est là depuis la rentrée à plus de 110 000 voyages par jour. Et surtout, toute la fréquentation du réseau, donc métro plus bus, a augmenté sur l'ensemble de la métropole de 20%. Ça veut dire qu'il y a 20% de plus de trajets qui se font en transport en commun, plus de 400 000 par jour, ce qui est considérable. Donc on voit que la révolution du zéro carbone, de la mobilité plus facile et sans carbone, est en marche. Quand je dis en marche, parce que les déplacements cyclables d'un côté et marche à pied de l'autre ont aussi augmenté. Et on a fait ça tout en diminuant en parallèle, vous l'avez dit, les tarifs des transports. Il y a déjà un tiers des déplacements qui se font via la gratuité sociale des transports ou la tarification solidaire. Mais en plus, on a baissé le prix des abonnements, notamment pour les plus jeunes, et puis mis en place la gratuité pour les moins de 12 ans. Donc voilà un projet emblématique. Mais d'autres que vous avez cités le sont tout autant. Je pourrais parler, peut-être ne l'avez-vous pas mentionné, donc je le fais, l'ambition éducative très forte. C'est, je dois dire, un privilège et une forme de fierté que de pouvoir inaugurer chaque année, depuis le début de ce mandat, une nouvelle école entre Pasteur dans le centre-ville, puis Simone Veil à la Courrouze, puis Toni Morrison cette année à Maurepas et l'année prochaine, puisque le chantier en cours de finalisation, l'école Myriam Makeba sur le quartier Beauchardonnais, c'est près de 100 millions dédiés à l'éducation sur ce territoire, et c'est effectivement considérable. Et puis d'autres équipements que vous avez cités, j'aurais pu citer des équipements sportifs aussi, le gymnase de Borgard qui était un engagement, un certain nombre de terrains nouveaux, la halle sportive du Blône qui est en chantier, le pôle Ovalie sur le quartier nord-est de la ville. Et puis effectivement, des coups de cœur particuliers. La Maison des Femmes me tenait particulièrement à cœur. On a eu un travail commun avec la SFAD, d'un côté, pour l'accueil des femmes, et aussi avec le CHU, avec l'ensemble des partenaires qui s'investissent et s'engagent contre les violences faites aux femmes. Ça nous permettra d'avoir un nouveau lieu d'accueil chaleureux pour prendre en charge les femmes victimes de violences et leurs enfants dans toutes les étapes de leur parcours.
Là, on a cité des exemples un peu de marques visibles qu'un ou une maire peut laisser après son passage à la gouvernance d'une municipalité. Là où c'est moins évident de dresser un bilan, c'est que sur beaucoup de dossiers, il s'agit en fait de continuité sur la construction de logements, sur la rénovation énergétique, sur les aménagements cyclables ou encore l'offre de soins. Beaucoup de choses poursuivent l'effort déjà engagé sur le mandat précédent, voire même avant. Il y a une histoire rennaise, quoi.
Ah ben forcément, quand on s'inscrit dans une histoire, dans une continuité de valeurs, que certains projets s'inscrivent sur le temps long et qu'en même temps, en permanence, pour être au rendez-vous des objectifs, il faut être capable de les adapter aux nouvelles attentes. Enfin, jamais nous n'avions poussé aussi loin les curseurs de la transition écologique de manière totalement assumée. On a pu le faire, je citais les mobilités tout à l'heure, parce qu'il y a eu l'anticipation sur le métro, de la même manière qu'il y a une attention particulière aux quartiers prioritaires depuis des années. Et c'est ce qui, au moment où, au niveau national, est lancé ce qu'on appelle un ANRU 2.
ANRU pour Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine.
Nous permettre d'être les premiers à lever le doigt pour dire on est prêt, on accélère. Et pour moi, c'est un des chantiers les plus importants. Alors, un chantier multiple, que c'est 750 millions d'euros investis ces dernières années, et encore pour avec quelques années de réalisation, sur Maurepas, Villejean et le Blône.
J'ajoute juste sur le dossier plus global du logement, donc l'engagement, c'est 1800 logements par an avec 25% d'accès social, avec le choix que vous défendez de plutôt construire haut pour éviter l'étalement urbain, ce qui va aussi dans le cadre du zéro artificialisation nette qui sera a priori imposé d'ici 2050.
Alors la loi, elle s'applique déjà.
Oui.
La loi qui s'appelle Climat et résilience et qui vise à ce que, à terme, à horizon 2050, il y ait zéro artificialisation, effectivement. Ça s'applique déjà depuis 2021, puisque ça consiste à diviser par deux le nombre de mètres carrés consommés par période de 10 ans. Mais nous étions déjà sobres en foncier. Et avec des besoins de logement assez considérables, parce que on est une métropole dynamique, mais portée, et c'est souvent important de le dire et de l'expliquer, parce que je pense que c'est pas toujours très clair pour beaucoup de gens, qui est portée par le solde naturel. On a quelquefois le mythe de Parisiens qui arriveraient nombreux pour s'installer en Bretagne. Il y en a, et c'est très bien ainsi, mais majoritairement, si notre population augmente, c'est parce que les Rennais, les métropolitains font des enfants. Et donc, il y a des besoins, de ce point de vue, de plus en plus importants, conjugués aussi avec une transformation de nos modes de vie, où les ménages sont de plus en plus petits. Pendant quelques années, on parlait beaucoup et exclusivement de la question du logement à travers ce qu'est l'opposition d'un certain nombre de collectifs, souvent de collectifs de propriétaires, à des projets parce qu'ils sont inquiets de voir leur cadre de vie de se transformer. Moi, je comprends ça très bien. C'est pour ça qu'on a fait la charte construction et citoyenneté de manière à ce que on puisse concerter sur les projets, expliquer. Et pour autant, quand on interroge véritablement les métropolitains et les Rennais sur quelles sont les attentes en matière de logement, ils disent deux choses très claires. Un, il n'y en a pas assez. Deux, ils sont trop chers. Et donc, pour répondre à cet enjeu-là, une mobilisation très forte, à la fois pour construire, et si on ne veut pas s'étaler sur les terres agricoles et qu'on veut, en cœur de ville, préserver des espaces verts, alors il y a un moment où, oui, à certains endroits, on peut se poser la question de la hauteur. Et puis, par ailleurs, c'est tout ce qui nous permet de diminuer les prix, réguler les prix, en donnant aussi priorité au logement social. Parce que 70% des habitants de ce territoire peuvent prétendre à un logement social, mais qu'aujourd'hui, il n'y en a pas assez. Et que là où il y a encore quelques mois, en 18 mois, on pouvait se voir attribuer en moyenne un logement social. Maintenant, c'est 3 ans. C'est beaucoup trop long.
Les chantiers à venir maintenant, dans les 3 ans qui restent, ils sont nombreux. Vous avez cité de nouvelles écoles, comme le groupe scolaire Myriam Makeba. Ce sera en septembre 2024 dans le quartier Beauchardonnais. Mais aussi la découverte du parking Vilaine, dont les travaux devraient débuter courant 2024. Et puis des lignes de trambus, dont les premières sont attendues dès 2027. Et à terme, en 2030, il y en aura 4 sur le territoire de Rennes Métropole. Et il y a des promesses. Vous allez me dire, c'est peut-être le propre de certaines promesses, mais qui semblent difficiles à tenir. Je pense aux 100% d'aliments bio dans les cantines en 2026. Aujourd'hui, là, on est à 33%. Aux zéro pesticides dans les fermes rennaises aussi pour 2025. Il y a 18 des 28 exploitations qui sont en conventionnel sur le territoire et on est dans de l'incitation, donc qui a ses limites. Et également, les 30 000 arbres à planter, il y en avait 13 000 comptés en 2022. Est-ce que sur certains dossiers, il y a des seuils qui sont difficiles à dépasser ?
Sur certains dossiers, il s'agit à la fois de fixer un cap et de se donner une méthode pour y parvenir. Et ce que vous avez cité, dans le champ de la transition écologique, les caps sont effectivement extrêmement volontaristes. Certains seront tenus lorsqu'on évoque les 30 000 arbres et que on est d'ores et déjà à près de 12 000 plantés depuis le début du mandat. Nous atteindrons en 2026 les 30 000 arbres supplémentaires. Je n'ai pas d'inquiétude particulière à cet endroit-là. Ça dépend directement de nous. D'autres sujets, on va plus aller chercher le changement de comportement, l'accompagnement, l'incitation. C'est le cas pour le zéro pesticide de synthèse. Nous savions que c'était très ambitieux. Ce qu'on a mis en place, c'est un système d'accompagnement et d'incitation des agriculteurs sur la transformation de leurs pratiques. C'est aussi le fait que la ville ou la métropole sont des propriétaires fonciers et que nous installons exclusivement des agriculteurs bio sur nos parcelles. C'est tout un plan alimentaire territorial qui, je crois, fait référence, et on va se donner les moyens d'atteindre cet objectif. C'est bien le paysan lui-même, au final, qui a la maîtrise de la façon dont il va utiliser ou pas des intrants. Et à l'échelle d'une ville, c'est pas là, notamment, qu'on peut faire évoluer les aides de la PAC, qui sont assez déterminantes dans la transformation du modèle agricole. Ça n'empêche pas d'être extrêmement volontariste. C'est le cas aussi sur le plan alimentaire durable, où l'objectif, c'est effectivement toujours plus de bio. C'était aussi des alternatives végétariennes et non carnées. Et là, on a une alternative végétarienne quotidienne et aujourd'hui de repas non carnés par semaine à l'échelle des restaurations municipales. Et on arrive aujourd'hui à plus de la moitié en local et en durable. On doit encore faire plus, et l'objectif est de continuer à faire plus.
La dernière promesse sur laquelle je voulais vous faire réagir, elle est un peu plus ancienne. C'était en 2014, donc il y a bientôt 10 ans, l'objectif de ne plus avoir aucun enfant à la rue. C'est un sujet dont on parle régulièrement sur Canal B à travers la voix des personnes exilées, puis des associations qui les accompagnent. Et un sujet, je trouve, qui devient presque sensoriel quand on est soi-même parent, d'imaginer ces enfants-là. Il y a un an, fin 2022, vous confiez à la presse « Pousser le rocher comme Sisyphe ». Avant les vacances, il y avait encore une quarantaine d'enfants qui étaient sous-tente dans un parc à Maurepas. Et on entend votre message répété qu'est le suivant: la ville a poussé au maximum la prise en charge avec plusieurs millions d'euros qui sont consacrés à ce logement chaque année, alors qu'il s'agit d'une obligation de l'État. On est sur un sujet un peu inextricable, on peut le dire comme ça?
Ouais, on est sur un sujet très, très compliqué. Et je vois bien que dans votre question, vous soulevez à juste titre ce qu'est la dimension, j'allais dire presque tripale. Bien sûr que c'est insupportable de considérer que dans une ville comme la nôtre, dans un pays comme le nôtre, il y a des enfants qui grandissent à la rue. Je fais partie de ceux et celles qui ne s'habitueront jamais à cela. Et c'est pour ça qu'on se bat depuis des années, qu'on a mis en place, et vous l'avez cité, des dispositifs qui sont aujourd'hui extrêmement conséquents. Aucune autre collectivité ne loge directement chaque nuit plus de 900 personnes, nulle part dans le paysage national. On le fait alors même que, effectivement, la loi est claire, le droit est clair, l'hébergement d'urgence est une compétence exclusive de l'État. Et alors même qu'en plus, ces situations sont très liées à des politiques migratoires, et les politiques migratoires sont le reflet des choix de l'État. Et on est effectivement un peu en bout de chaîne avec, je le dis, des formes d'hypocrisie de la part de l'État qui considère que une fois une personne, par exemple, a été déboutée du droit d'asile, n'a pas de droit au séjour, alors cette personne n'existe plus. Sauf que la réalité, c'est qu'elle n'est pas reconduite à la frontière et qu'elle n'existe peut-être plus, mais qu'elle est là, qu'elle est sous nos fenêtres, qu'elle est sur le territoire, que ces enfants n'ont rien demandé. Et ce pourquoi on se bat, nous, c'est pour la dignité de chacune et de chacun. Donc, aux côtés des associations, on se mobilise avec des solutions souvent très insatisfaisantes, avec des frustrations, avec des colères aussi, mais je veux me dire que à chaque fois, qu'il y a eu une main tendue, qu'il y a eu une mise à l'abri, qu'il y a eu un parcours possible. Alors, c'est une petite victoire.
Ma dernière question, dans un climat qui est particulièrement anxiogène, en cette fin d'année 2023, évidemment, on pense à l'urgence climatique, aux guerres en Ukraine et au Proche-Orient, à la montée de l'extrême droite. Je voulais vous demander comment se sent l'élu local que vous êtes, parce que ces sujets, ils trouvent des échos même ici, à Rennes, et ça se voit d'ailleurs en conseil municipal, qui est aussi un moment de tribune parfois pour évoquer des sujets qui relèvent de l'international. Est-ce que le fatalisme et le découragement sont des sentiments qui peuvent traverser un maire ?
Non, ce sont des sentiments qu'on ne peut pas s'autoriser quand on est responsable politique, qu'on s'est engagé. Par ailleurs, devant les Rennaises et les Rennais, ben, on tient le cap. On ne nie pas les difficultés et vous ne trouverez pas ici de grande capacité à l'autosatisfaction. Enfin, je crois qu'on est capable de dire avec lucidité ben, tout ne s'est pas passé comme on l'avait imaginé. Donc, voilà, on se dit qu'il faut à la fois être déterminé, convaincu aussi qu'on est dans la bonne direction et que ce qu'on fait au quotidien, ça transforme la vie. Et puis peut-être un rôle particulier qui est le mien à la fois affirmer des convictions, et je n'hésite jamais à le faire, et en même temps chercher aussi l'apaisement. Parce qu'on est dans des moments de tension, de clivage, et si de mon côté je pratique assez peu la petite phrase ou la polémique, c'est parce que j'ai conscience qu'on peut aussi avoir un rôle pour rassurer, pour apaiser, et je pense que cette société, elle a aussi besoin de sérénité.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
On le redit, vous êtes donc depuis 2020 maire de Rennes pour un deuxième mandat qui court jusqu'en 2026, dans une majorité, on ne l'a pas dit, mais qui est formée avec les écologistes, les communistes, Génération et le Parti radical. Et on vous retrouve avec vos équipes lors de réunions publiques les 8, 15, 21 et 22 novembre, où vous serez respectivement dans les quartiers Maurepas, Courouze, Leblon et Villejean. Le détail est à retrouver en ligne sur métropole.rennes.fr. Cassidy et son morceau « Sentiment banal », c'est une nouveauté musicale qui a été sélectionnée par Yann, notre programmateur, un single qui est sorti le 13 octobre et à retrouver sur un album qui est lui attendu pour début 2024. Ce sera le troisième album de Cassidy, Quatuor, fondé en 2012 par Pauline Le Keniac, qui est auteur, compositrice, interprète et designer sonore. Tout ça, vous êtes en train d'écouter l'Arène, c'est l'émission d'info locale de Canal B, sans doute branchée sur le 94.0, mais on est aussi en ligne sur canalb.fr. On continue l'émission avec maintenant un reportage.
Et on reste avec la ville de Rennes pour ce reportage dans le prolongement de l'interview de Nathalie Appéré à la moitié de son mandat comme maire de Rennes. Et on part dans un champ sur la route de Vezin-le-Coquet pour relayer l'appel à projet de la municipalité. Les agriculteurs en quête d'un terrain pour monter une ferme florale. C'est le projet. Eh bien, ils ont jusqu'à fin février pour candidater. Le détail en ligne sur métropole.rennes.fr.
Oui, il y a eu du monde.
Une petite quinzaine.
Ah ouais, quand même.
Ouais,
ah ouais.
Ils sont arrivés tous en binôme, trio. Bel engouement, vraiment, plein de questions.
Bon, on débriefera après, mais moi, c'est chouette s'il y a une quinzaine de personnes. Parce que parfois, on met à disposition des terres agricoles, mais parfois, on n'a pas de porteur de projet, quoi. Parce que c'est long de s'installer en agriculture.
Je m'appelle Juliette Chevalier, je suis chargée de mission agriculture urbaine à la direction des jardins et de la biodiversité de la ville de Rennes.
Ludovic Brossard, élu à l'alimentation durable et à l'agriculture urbaine à la ville de Rennes.
On commence peut-être par dire où on se retrouve et ce qui avait lieu donc ce mardi 7 novembre.
Alors, ce matin du mardi 7 novembre 2023 a eu lieu une visite du site de l'appel à projet Ferme Florale que la ville de Rennes a lancé en début d'automne. Alors, les potentiels porteurs de projets étaient invités à venir visiter le site afin de s'imprégner tout d'abord du paysage, des parcelles, des caractéristiques naturelles du lieu. Alors, on est à l'ouest de Rennes, sur le secteur de Champeau, au sud du centre horticole municipal, donc est le centre horticole où les collègues de la direction des jardins produisent les fleurs pour ensuite fleurir la ville lors des événements et toute l'année. Donc une grande partie des productions florales qu'on voit en centre-ville sont produites ici par les techniciens, par les jardiniers. Et donc c'est deux parcelles sur lesquelles nous nous trouvons, deux parcelles enherbées, entourées de haies, de bocages et d'arbres assez remarquables. Elles sont collées à ce centre horticole, mais l'idée ici est de mettre à disposition ces parcelles pour un professionnel, mais sans lien économique direct avec la direction des jardins et avec l'équipe du centre horticole. Il y a eu des recherches bibliographique, historique de la zone, et donc ça a toujours été en prairie ou avec un petit peu de maraîchage aux alentours. En fait, le site de Champeau est un site agricole depuis toujours, il n'y a jamais eu de construction, et cette parcelle est en prairie actuellement et est entourée de parcelles également propriété de la ville de Rennes, mais exploitées par des agriculteurs professionnels, donc par trois agriculteurs notamment. Et depuis cette année, on a engagé des occupations de terrain moyennant une non-utilisation des produits phytosanitaires. Donc c'est typiquement une question qui est revenue ce matin par les porteurs de projet de demander s'il y avait des phytos utilisés aux alentours. Et donc je leur ai répondu que non.
On relie ce projet à la politique de la ville de Rennes, puisque ça s'inscrit un peu dans le développement des fermes urbaines. La plus connue, c'est peut-être le potager des cultures dans le quartier du Blône, en termes de ferme urbaine, qui fait de la production, mais qui est aussi dans une idée de transmission, de ce que c'est que de faire du maraîchage auprès des habitants. Le projet le plus récent, c'est la ferme du Turfu, non, sur le quartier de la Prévalet, qui est en cours d'installation, c'est ça?
Tout à fait, c'est ça. La ferme du Turfu a pu être lauréat du dernier appel à projet Prévalet Paysanne, sur 8 hectares de terres agricoles sur la Prévalet, qui est un site agricole et naturel et qu'on souhaite conserver avec cette vocation-là. On a aussi des fermes urbaines qui se développent, on va dire en intra-rocade, comme l'école verte, mais également la ferme de Quincé, qui a répondu aussi à un appel à projet il y a 2 ans et qui développe à la fois un projet agriculturel et aussi un projet de production maraîchère. On peut d'ailleurs les retrouver sur des marchés rennais, vendre leurs excellents légumes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la gestion commune des terres agricoles, elle n'est pas née aujourd'hui. Depuis des décennies, on a eu une intention, c'est celle de préserver un maximum de terres agricoles et naturelles autour de la ville de Rennes, et en densifiant l'habitat, plutôt en construisant la ville sur elle-même, en densifiant l'habitat, de préserver ces terres agricoles et naturelles. Ça, c'est une intention qui est issue de politiques qui datent des années 80. Et aujourd'hui, ces terres agricoles qui appartiennent à la collectivité on a une opportunité d'y installer des fermes qui sont sur des productions agricoles durables et qui vont de fait répondre à des enjeux environnementaux, qualité d'eau, à notre rapport au vivant, à notre rapport à l'alimentation. Et ça, on peut le faire parce qu'on a la maîtrise foncière des terres agricoles.
Et pour compléter, on sait la difficulté pour les jeunes agriculteurs à trouver des terres agricoles aujourd'hui, et particulièrement quand le projet s'inscrit dans une agriculture durable, biologique, etc. C'est un terrain qui est loué aux futurs agriculteurs.
Vous avez raison de pointer ce problème-là, c'est un des soucis majeurs aujourd'hui en termes de renouvellement des générations. Donc c'est pour ça que lorsque la ville, on a l'opportunité d'être propriétaire, de gérer ce foncier-là, notre attention c'est de le mettre à disposition des paysans et des paysannes sous la forme de bail rural à clause environnementale qui a un bail de longue durée, donc qui permet aux paysans ou la paysanne qui s'installe d'avoir de la visibilité sur son modèle économique, mais également en contrepartie dans le cadre de ce bail d'avoir le fait qu'on n'ait pas d'usage de pesticides de synthèse et qu'on ait un usage plus durable des ressources naturelles qui sont sur place.
Pourquoi des fleurs? On imagine qu'il y a la proximité des serres municipales qui a joué dans ce choix-là. C'est peut-être le moment où on dit un mot sur le commerce de la fleur, dont je ne connaissais rien. Mais des fleurs, souvent, qu'on achète, qui sont importées de loin et qui ne sont pas forcément très vertueuses dans la façon dont elles sont produites, on peut le résumer comme ça.
Comme beaucoup de biens qui sont produits aujourd'hui, on est dépendant de productions qui répondent à des enjeux de commerce international, de compétition, qui sont liés à une attention qui est plutôt portée au libre-échange qu'à la qualité des produits et le bienfait qu'ils peuvent apporter au territoire. Donc le commerce de la fleur, comme une partie de notre alimentation, comme notre énergie, provient de ressources très lointaines. Et pour ce qui concerne la fleur, une grande partie des fleurs aujourd'hui qui sont consommées, soit les fleurs coupées, soit les fleurs comestibles, sont issues de productions qui sont peu durables, qui proviennent de pays lointains, ce qui suppose de fait une logistique qui a une empreinte carbone très très lourde. Et on sait que sur notre territoire, on doit avant tout répondre aux enjeux climatiques en diminuant l'empreinte carbone à la fois de nos logements, en diminuant l'impact carbone des transports et en diminuant l'impact carbone aussi de notre alimentation. Donc installer une ferme florale aujourd'hui sur la production de fleurs coupées et fleurs comestibles, c'est répondre à la diminution de l'impact carbone, considérant qu'aujourd'hui on est trop dépendant de pays comme le Kenya, comme la Hollande, d'où la majeure partie des fleurs transitent. Donc il faut relocaliser.
Très concrètement, même si le projet il va être affiné selon les personnes qui vont arriver et puis s'emparer de ce terrain-là, avoir un projet de ferme florale locale sans engrais chimiques, on peut imaginer qu'il y aura quelle fleur est destinée à être où dans les assiettes, dans des boutiques, avec quelle commercialisation derrière ?
En fait, le porteur de projet sera libre de choisir en fait son modèle économique ainsi que ses distributeurs. Nous, on accorde une attention particulière à ce que ce soit tout d'abord des productions de fleurs endémiques du bassin pédoclématique breton, des fleurs aussi originales, d'essence oubliée. Et on n'impose pas le bio, on choisit d'imposer le zéro phyto. Et toute distinction de label type fleurs de France et accompagnement par des organismes également certificateurs de qualité de semences paysannes florales sera valorisé dans l'étude des candidats.
On va peut-être pouvoir parler du sol et du terrain. Quelle est la surface et puis de quel terrain vont hériter les futurs agriculteurs qui seront là? On sait que revient souvent la problématique de la qualité des sols sur les projets de fermes urbaines avec les cols verts qui avaient eu quelques mésaventures et qui donc cultivent en bac. Ici, il en est quoi?
Alors, avant toute mise à disposition de terrain, à la ville de Rennes, tout d'abord, on a identifié le foncier qui nous appartient. On s'assure qu'il n'y ait pas d'autres usages prévus. Ensuite, on fait des analyses pollution, on fait des analyses agronomiques. Et en fonction de ces résultats-là, et aussi de la configuration du terrain, donc s'il est plus ou moins ombragé, s'il y a des pentes, et surtout selon la surface, on s'oriente sur une production que l'on souhaite développer ici. Là, la floriculture répondait plutôt bien au vu des 2 hectares. Une surface parfaite, hein, même un petit peu trop grande, donc des activités annexes peuvent s'y greffer aussi, animation, culture annexe. Et en termes de qualité du sol, du coup, on est exempt de pollution hors 2 sondages, dont un en périphérie de parcelle. Ça a été identifié, ça a été dit.
Les candidatures, elles peuvent être déposées jusqu'au 23 février 2024. Il est expliqué dans la présentation et dans l'appel à projets que certains projets seront favorisés ou privilégiés. En tout cas, ça va jouer sur quel point ?
On a des critères qui sont plutôt bien établis d'appel à projets sur le modèle économique, sur l'ancrage territorial, l'ancrage sur le quartier. Et puis... Le portage juridique aussi. On a, par exemple, sur l'appel à projet Prévalet Paysanne, ce qui a pu faire la différence sur certains porteurs de projets, c'est que la ferme du Turfu proposait un portage en mode coopératif, mais aussi d'impliquer des bénéficiaires aujourd'hui de l'aide alimentaire qui sont accompagnés par l'association Cœur Résistant. Donc on a une attention particulière à la fois sur les enjeux environnementaux, bien sûr, avec un cahier des charges techniques qui exclut les pesticides de synthèse, qui va être le plus sobre possible en ressources, notamment vis-à-vis de la quantité d'eau consommée. Et aussi une particularité singulière du site, c'est que comme on est proche du centre horticole de Champeau où la ville de Rennes produit ses fleurs, c'est qu'on a une proximité qui peut être intéressante pour un projet d'insertion qui consisterait à donner la possibilité à des personnes éloignées de l'emploi, par exemple, de travailler sur une ferme florale. Et puis, si toutefois ce métier-là peut correspondre aux attentes de ces personnes-là, le fait que le centre horticole soit à proximité peut donner une opportunité d'embauche derrière et de travail au sein de la ville de Rennes à la direction des jardins de l'université.
Rennes, la ville où il fait bon être une fleur.
Ce sera le prochain slogan, après vivre en intelligence.
Et on approche de la fin de l'émission d'information locale, c'est le moment des recommandations du jour. La recommandation du jour, ce sont des conseils de choses à lire, à écouter ou à vivre. Premier conseil, c'est d'aller faire un tour à la fête des Lumières Diwali dimanche, une fête indienne qui traditionnellement célèbre la victoire de la connaissance sur l'ignorance, on en a bien besoin. Rendez-vous salle de la cité dimanche 12 novembre à partir de 16h avec sur place des ateliers aînés, port du sari, calligraphie. Puis, à partir de 18h, une cérémonie et de la musique, de la danse ainsi qu'un repas indien. Les tarifs vont de 6 à 12 euros. Plus d'infos sur le site des Dimanches à Rennes, dar.rennes.fr. Et pour la deuxième recommandation du jour, puisqu'il y en a une, je vous laisse avec Léonard Tirel, volontaire en service civique à Canal B.
Bonjour Raphaël Rush.
Bonjour.
Vous êtes comédien, auteur, conteur, mais aussi slammeur, et c'est avec cette casquette que vous êtes déplacé aujourd'hui dans les studios de Canal B afin de nous parler de l'association Slam Connexion et d'un événement qui se produira dimanche à Rennes. Alors première question Raphaël, on rappelle ce qu'est le slam à nos auditeurs ?
Alors le slam, contrairement à certaines idées reçues, ce n'est pas un genre musical. En fait, c'est un tournoi de poésie. À l'origine, ça a été créé dans les années 80 par un ouvrier américain qui était aussi poète et qui avait pour objectif de dynamiser les scènes de poésie. Et donc, il a créé un format de tournoi de poésie qu'il a appelé Slam et dont les règles sont assez simples. En fait, chacun et chacune a 3 minutes sur scène maximum pour faire passer le plus de monde possible. Chacun vient avec un texte qu'il ou elle a écrit, et puis il n'y a pas de musique et pas d'accessoires. C'est vraiment, on fait spectacle avec son corps et avec sa voix.
Et est-ce que vous auriez un ou une artiste à nous recommander ?
Waouh ! En ce moment, il y a une artiste qui est une poétesse belge, qui s'appelle Lisette Lombé, et d'ailleurs qui va venir très prochainement pour le festival du TNB, et qui, elle, vient justement du milieu slam aussi.
Comment pourrait-on présenter l'association Slam Connexion ?
Alors l'association Slam Connexion, c'est une association qui œuvre justement pour la diffusion du slam, notamment sur plusieurs points. Alors il y a forcément déjà l'organisation de scènes ouvertes de slam de poésie qui se déroule les deuxièmes mercredis du mois au bar L'Autruche, rue Le Graveran à Rennes. Il y a aussi l'animation d'ateliers auprès notamment des publics scolaires, mais pas que, tout type de public. il y a aussi du coup plusieurs tournois de poésie qui sont organisés un peu partout en France, et donc Rennes organise des scènes de qualification pour pouvoir créer des équipes de poètes et de poétesses, et il y a l'organisation des matchs de poésie. Ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu en Ille-et-Vilaine, et puis là il y a eu le premier l'année dernière, il y en a eu un deuxième en février qui était un peu le 1 bis, puisque c'était le premier à la salle du Jeu de Paume à Rennes, et puis il y a le troisième qui arrive là justement dimanche prochain.
Et à quoi ça ressemble concrètement ces matchs ?
Alors dans le match de poésie, on est parti sur le même principe que le slam, c'est-à-dire on a 3 minutes a cappella, pas d'accessoires, et l'idée c'est que nous on fait des équipes de 3 poètes ou poétesses et on invite une ville. Donc la dernière fois on avait invité Nantes, et là pour l'événement on invite la ville de Tours. Donc l'assaut de slam à Tours, la meute slam a constitué une équipe. Et en fait, il y a 3 manches et il y a une manche libre. Donc chacun vient avec son texte favori, le texte qu'il ou elle a envie de donner. Et il y a une manche à contrainte. Pour vous donner un exemple, en reprenant celle des derniers matchs, par exemple, on avait eu la contrainte faire un texte jeune public, où c'était que les enfants qui votaient. Et il y a un troisième round qui est une manche collective, où là, il y a une thématique qui a été donnée et du coup, les équipes doivent écrire sur la thématique. Et tout le public vote, c'est-à-dire qu'ils ont des petits cartons, les gens dans le public, des petits cartons rouges ou des petits cartons jaunes. Et puis, en fonction de leur poète ou leur poétesse préférée, parce que les joutes se passent en duel, le public va voter pour le poète de Tours ou pour la poétesse de Rennes. Et puis, on distribue les points comme ça.
Pour rappel, cet événement sera ouvert à tous ce dimanche à 15h, salle du Jeu de Paume à Rennes. Il sera préférable de réserver via votre adresse email raphaël.rush@gmail.com. Le match contre l'équipe de Tours sera donc l'occasion de partager un show oratoire ludique et familial. Merci Raphaël.
Merci beaucoup pour l'invitation.
L'arène, c'est terminé. Une émission d'info locale qui se veut réflexive et combative, à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus. Salut.